Bon, merci d'être là en grand nombre encore une fois. Merci à France-Margaret Bélanger qui, elle, est vice-présidente exécutive affaires commerciales et corporatives. Une demoiselle de Matane tout à fait charmante et surtout, surtout très brillante. Sans plus tarder, un autre brillant. Bernard Félicet. Allô?
Salut, Ron. Salut, comment vas-tu?
Je m'ennuie de toi. Je m'ennuie. C'est tout. Je m'ennuie, Colin.
T'es trop occupé, Ron. T'es trop occupé.
Ouais, je sais. Écoute, là, comment t'as trouvé ça, le grand Serge, entouré de ses amis, des connaissances, ou surtout des amis, 33 ans dans l'organisation du Canadien. Ouais. Enfin, il écrit sa biographie sous la plume habile de Philippe Quentin. Louis Morissette avait de l'air très, très touché par tout ça, lui qui était derrière, qui avait le chef d'orchestre de tout cela. Comment t'as trouvé, surtout le rassemblement des anciens puis des moins anciens, comment t'as trouvé l'événement?
Alors, écoute, j'ai trouvé ça à la hauteur de Serge dans un sens. D'abord, le CAFCON du Château-Champlain, c'est déjà assez spécial.
C'est assez ancien.
Assez ancien. comme place.
Ah oui. Lui, il était propriétaire, en tout cas, actuellement.
Il a été propriétaire longtemps, là, avec Messi, puis Thibault, je pense, à l'époque. Et ça a été son joyau. Je pense que ça a été la plus belle prise au plan des affaires. Mais il n'a pas été question des affaires aujourd'hui. C'était vraiment question de Serge Savard, l'homme, puis Serge Savard, le joueur de hockey, puis l'administrateur de club de hockey. Là.
C'est ça.
Et je pense que c'était un lancement qui était fait, comme je disais, là, à sa hauteur. J'en ai plutôt aussi, sans doute, parce que tu as bien des lancements dans ta carrière. Puis celui-là, c'est un gros. C'était pas un petit. Mais je sors de là avec quand même un petit, pas un petit goût amer, c'est pas du tout ça, là, au contraire. Mais je me dis, c'est vraiment une réunion d'anciens qu'il y a eu là ce soir. Je comprends mal, moi, que l'époque qui n'est pas celle de Serge, l'époque d'aujourd'hui plus contemporaine. Là. Serge a quitté le Canadien en 1995, ça fait déjà 23 ans, 24 ans. Mais il n'y a personne à peu près qui représentait le Canadien depuis 1995 ou, mettons, depuis l'an 2000. Tu sais, j'étais un peu surpris de ne voir personne. Là. J'ai pas vu Jeff Molson, j'ai pas vu Bergevin, j'ai pas vu les dirigeants d'aujourd'hui. Bien sûr, l'équipe est partie à Buffalo, je peux comprendre ça, là, mais tu sais, mis à part Paul Wilson, j'ai pas vu personne, moi, qui représente le Canadien d'aujourd'hui. Et je me demande dans quelle mesure. Serge a beaucoup parlé de la famille.
Exact.
Pour lui, le Canadien, c'est une grande famille, puis ça a toujours été ça. C'est depuis son enfance, puis jusqu'à son départ, puis même après, c'était un gars du Canadien pour la vie. Puis il a beaucoup insisté sur ce phénomène-là. Et je pense qu'il n'y a pas eu la réponse que moi j'aurais entendue ou j'aurais espéré pour lui. Et ça me fait un peu de peine dans ce sens-là. Je suis sûr que lui, dans un sens, ça ne fait pas énormément de peine parce que le monde qu'il a connu, le monde qu'il aimait, le monde qu'il
était
aimait,
là, était lui, présent, était
tout
présent.
Le monde était là. Écoute, de toutes les sphères d'activité, il y avait des gens là. Tu peux toutes les nommer, je pense.
La
carrière de Serge te représentait à tous les niveaux.
Ouais. FX était là pourtant. FX Seigneur était là.
FX, ça a été un grand important dans la vie de Serge aussi. Et vice-versa. FX était là pendant quoi? Toute la carrière de Serge comme directeur général.
Absolument.
Puis il y avait un très bon rapport tous les deux. Je pense pourquoi on parle d'FX. Moi, c'était la première fois que je le voyais depuis son accident. Là.
Ouais.
Et j'étais content de voir qu'il est solide. C'est que de plus en plus, il reprend. On trouve le FX de l'époque. Là,
absolument. C'était le fun de voir là, à l'arrière. J'étais à tes côtés, puis il y avait Yvon Lambert, puis il y avait Pointu, Guy Lapointe, puis il y avait à l'avant, il y avait Guy Carbonneau, et puis les plus jeunes un peu. Guy Carbonneau avec José Théodore, puis avec Patrice Brisebois, puis il y avait cette petite gang-là.
Mais Brisebois, puis Carbonneau, c'est l'équipe de Serge aussi, c'est l'équipe 93, tu sais, fait que c'est... mais écoute, je sais pas, moi, qui a fait les invitations, c'était pas... Je pense pas que c'était une invitation à large où tout le monde pouvait venir. Écoute, il y avait déjà, je sais pas combien, une couple de centaines de personnes qui étaient là. Fait que, mais dans ce sens-là, au moins, heureusement, là, t'as les noms du Canadien là, qui ressortent là, de toute cette époque-là. Était là, puis je pense qu'ils ont prouvé encore une fois que leur amitié à Serge Savard.
Ah, absolument. T'as pas lu le livre encore, toi?
comme non, tel. J'ai pas lu le livre. Ouais. J'ai lu quelques extraits.
Est-ce qu'il y a un goût amer un petit peu de Serge face au traitement qu'on lui a réservé, particulièrement après qu'on eut nommé Marc Bergevin comme directeur général? Penses-tu qu'il s'attendait à autre chose?
Oui, j'ai entendu ta question, Mme Bélanger, tantôt, un peu à ce sujet-là, puis je sais pas, Serge ne s'attendait pas à une job, il voulait pas une
job. Non, pas une job, pas une job. Mais tu sais, l'exemple que j'ai donné de Bill Torrey avec les Islanders.
Oui, Albert Statesman, comme disent les Anglais, un peu un sénateur.
Exact, tu comprends, un genre de...
Ben, j'ai l'impression qu'on y avait donné cette espèce d'espoir-là. Quand Jeff Molson l'a appelé pour le conseiller dans le choix du DG qui est devenu Bergevin, Serge, selon ce que je comprends, s'est senti un peu appelé pour devenir un espèce de consultant.
Consuliare.
C'est ça. Tu sais, un gars qu'on appelle une fois de temps en temps, puis demander un conseil, puis il dit qu'est-ce que tu ferais de tel cas, Serge? Et Serge s'est offert par la suite à Bergevin, ça. Il en parle sûrement dans le livre, là.
Oui.
Mais je sais que Serge m'en a déjà glissé un mot là-dessus, et que Bergevin a tout simplement jamais donné suite à cette.
Mais à la défense de Marc Bergevin.
Non, je comprends ce que tu veux dire.
Tu sais ce que je veux dire. Alors, élabore. C'est ce que je veux dire. Je sais que tu
sais. Je comprends. Bergevin, lui, il veut que ça soit son équipe.
Ouais.
Il veut pas que ça soit. Tu sais, quand il a été nommé, Bergevin, tout de suite, on sentait là, qu'il voulait prendre la mainmise sur l'équipe. Puis c'est correct. Puis, Molson, il a donné carte blanche dans un sens. Puis organise-toi avec ça.
Ouais.
Je sais que le problème a peut-être commencé là, à la conférence de presse initiale, où Serge a reçu un téléphone le matin pour se faire dire « Écoute, ça serait mieux que tu ne viennes pas à la conférence de presse. » Et ça l'a blessé. Ça l'a vraiment blessé. J'ai l'impression que c'est à partir de ça là, que la relation qui n'a jamais véritablement existé. C'est non construite, si tu veux.
Je comprends.
Mais effectivement, Bergevin, c'est son droit le plus strict de mener son équipe à sa façon, avec ses hommes à lui, ses conseillers à lui. Puis ça, je suis certain que Serge, il n'en veut pas à ce niveau-là. Je suis certain. Serge est trop intelligent, trop aguerri. Puis lui-même, Serge, pas sûr qu'il aurait accepté quoi qu'il l'acceptait de la part de Jean Béliveau. Mais Jean Béliveau, c'était tellement un gars discret aussi qu'il ne se mêlait pas véritablement des affaires de hockey.
T'as bien raison. Lorsque j'échangeais avec France Margaret Bélanger, évidemment, j'avais des questions à lui poser, des questions de notre auditoire, des gens qui m'appellent et qui m'écrivent régulièrement. Puis on parle particulièrement des matchs préparatoires. Je veux juste ton point de vue là-dessus, toi, juste un point de vue. Les mots juste de matchs préparatoires, là, où on ridiculise un peu tout le monde, d'abord le partisan, avec un alignement qu'on a connu avec des Maple Leafs de Toronto et tout ça. As-tu déjà vécu ça, toi, du temps où tu étais soit avec les Nordiques ou soit avec le Canadien?
Moi, Ron, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ça. C'est pas un problème de cette année, là.
Souviens-toi. C'est ça, hein?
Écoute, il me semble qu'il n'y a pas tellement d'années. Il n'avait pas seulement 7, il y avait 10 matchs préparatoires.
Il avait un paquet, t'as raison.
Là-dessus, il en avait 6-7 au Forum, puis au Centre Molson. C'est toujours le même problème. Il y a même une couple d'années, là, je ne sais pas combien de temps,
ouais,
pour savoir mieux que moi, que la Ligue avait passé un règlement selon lequel il devait avoir tant de joueurs identifiés joueurs de la Ligue nationale. Tu vois que les clubs jouent avec ça, là, parce que un gars que je pense qui est allé au banc des punitions pendant 2 minutes.
C'est ça, exactement.
De la Ligue. L'affaire que je trouve dommage, c'est que les clubs, ça les gêne pas.
Non.
De montrer au public que finalement, là, c'est pas important ce que vous pensez. Nous autres, on est ici pour faire essayer nos joueurs, puis on fait des expériences. Mm-hmm. Nos joueurs importants, on les laisse à la maison, on les amène pas sur la route. Ce genre de choses-là, alors que les prix sont effectivement les mêmes prix en saison régulière, des tarifs absolument fous. Ils sont déjà fous en saison régulière. Là, quand tu payes pour des matchs comme celui de Toronto, effectivement, là, C'est épouvantable. Ça, là-dessus, là, je ne sais pas ce qu'elle a répondu, Mme Bélanger, je ne l'ai pas entendu ce bout-là, mais elle n'a pas dû répondre à du
Ben, écoute, elle a expliqué que pour le détenteur de billets de saison, de toute façon, c'est réparti, tu comprends? Ça, c'est le détenteur de billets de saison.
Mais c'est de la merde pareille, tu fais un coup unitaire à la fin de l'année, tu divises tout par 45 au lieu de 42.
Mais c'est du pareil au même. C'est comme ça partout. Toutes les villes, c'est comme ça.
Non, je ne blâme pas le Canadien. Là-dessus, c'est comme ça. Dans ce sport-là, c'est la même chose. C'est pareil partout.
C'est ça.
Puis est-ce que... La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est nécessaire les matchs préparatoires? Moi, je suis moins sûr qu'avant. Il me semble que quand j'ai commencé à suivre le hockey, moi, dans les années 70, les joueurs arrivaient au camp d'entraînement, ils étaient 10, 20, 30 livres de surplus.
Ouais.
Ils avaient bu de la bière tout l'été, ils n'avaient rien fait, pas d'entraînement, ils arrivaient au camp puis ils se mettaient en forme. Puis ça durait 3 semaines, un mois et demi, je me souviens plus du temps que ça durait.
Mais donc, c'est question de sous, Bernard. De sous, parce que les joueurs ne sont même pas payés. C'est question de sous. C'est un revenu additionnel à l'équipe. Point à la ligne. Le joueur n'est pas payé.
C'est sûr que c'est un gros revenu. Le joueur, lui, je vais te donner la même réponse que Mme Bélanger. D'abord, c'est un coup, coup total pour toute la saison.
Ben oui, c'est ça.
Les joueurs qui... je pense que les joueurs qui n'ont pas de contrat de la Ligue nationale sont payés. Il y a toutes sortes de... Mais c'est certain que le joueur, que Carey Price, il ne reçoit pas son coup unitaire de partie, lui, pour...
Non. Hey, dis-moi donc, avant de me laisser, Bernard, c'est toujours intéressant. Hier, je posais la question, quel qualificatif donnez-vous au spectacle offert par le Canadien lors des deux premiers matchs? Écoute, j'ai eu des réponses intéressantes. Surprenant, chanceux, étonnant, renversant, spectaculaire, excitant, inattendu. Il y a un qualificatif là pour expliquer un petit peu ce que Bernard Brisset a vu, lui aussi. Moi, c'était étonnant. Puis Luc Jelina, c'était inattendu. Toi, c'est quoi?
Ben, étonnant, je pense que c'est un bon qualificatif, mais j'aurais envie de dire rassurant.
Ah!
Rassurant parce que c'est un club là, qui ne nous a pas montré grand-chose en match préparatoire. T'sais? Personne ne nous a montré grand-chose. Price a été pas pire, mais le reste du club, c'était pas trop fort en match préparatoire. Fait que là, tu t'en viens, tu commences ta saison régulière, puis tu joues de la façon dont ils ont joué, particulièrement les retours en fin de match. Là, parce que les deux premières périodes en Caroline, c'était pas brillant. Mm. Les deux premières périodes d'ennemis contre Toronto, c'était pas brillant. Donc, ils ont fini fort les deux matchs. Ça, ils nous ont pas habitués à ça. Mais là-dedans, c'est... J'ai envie de te dire, soyons patients, t'sais. Soyons patients, attendons un peu, là. T'sais, avant de canoniser, j'entends tout ce qui se dit sur Jonathan Drouin depuis deux matchs, Calvin. Il a joué deux matchs. Il y a eu un camp d'entraînement pourri. Il arrive deux pas pires matchs, admettons-le. L'année passée aussi, il nous a sorti deux, trois matchs d'affilée. À un moment donné, on pensait qu'il était parti.
Ouais.
Attendons, soyons, puis c'est comme pas juste pour Drouin, même chose pour le Canadien. Il joue à Buffalo demain. S'ils font le même genre de partie, bravo, là, on est parti pour une bonne saison, soyons juste patients un peu, puis prudents.
Ouais,
mais tant mieux. Moi, j'ai trippé à regarder ces deux matchs-là l'autre jour.
Absolument. Toujours intéressant, mon Bernard. Tu fais attention à toi. Alimente-toi bien. Fais des dodos, tu sais. Puis tu as le droit de te coucher l'après-midi aussi pour te reposer, tu sais. Ça fait du bien, ça.
C'est ce que tu fais, toi, maintenant?
Toujours.
Oui, ça, t'as fait ça toute ta carrière.
Puis des fois, je me réveillais pas, puis je dormais encore durant un match, c'est ça que t'es en train de dire?
Non, jamais j'oserais dire ça. Voyons, tu sais que t'as été mon arbitre favori.
Hey, t'es donc fin. Je t'embrasse, je te remercie.
Salut,
bye-bye. Bernard Brisset était avec nous.